présenté par Erbarta.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'Amphi, l'émission étudiante de Radio Alpa. Ce soir, je vous fais part de mon échange avec Félix Souris, batteur du groupe Angevin Fragile. J'ai donc pu échanger avec Félix à propos de l'histoire du groupe, de la sortie de leur premier album Big Big Smile et puis de plein d'autres sujets. Et puis, ce soir, on parle aussi du fameux Met Gala qui avait lieu lundi dernier. Avant tout, voici Let the Light In de Lana Del Rey.
At on 2:45, ask you if you want something to eat. Drive around, get drunk, do it over again. Wake you up at night, 12:45. I can never stop, wanna have fun. Don't be acting like I'm the kind of girl who can sleep. Screw it, maybe you should go and
chaque année, le premier lundi du mois de mai, le monde entier tourne les yeux vers New York pour assister à l'un des événements les plus médiatisés de la planète, le Met Gala. Organisé au Metropolitan Museum of Art, plus précisément pour financer le Costume Institute, cet événement rassemble célébrités, créateurs de mode, influenceurs, sportifs et grandes fortunes dans une soirée devenue un phénomène culturel mondial. Mais derrière les robes spectaculaires, les tapis rouges et les photos virales, le Met Gala suscite aussi de nombreuses critiques. Certains y voient une célébration de l'art et de la créativité, d'autres y dénoncent un symbole de luxe excessif, d'entre-soi et d'inégalité sociale. On va donc voir un peu comment le Met Gala est devenu un événement incontournable de la culture populaire, analyser les polémiques qui l'entourent, parce qu'il y en a pas mal, et surtout autour de son financement, de son image et aussi de sa signification sociale. Donc le Met Gala, c'est une soirée caritative organisée au profit du Costume Institute du Metropolitan Museum of Art de New York. Cet institut est donc consacré à l'histoire de la mode et organise des expositions chaque année. Ce gala existe depuis 1948, mais il a surtout gagné une immense popularité à partir des années 90 grâce à Anna Wintour, la rédactrice en chef du magazine Vogue. Souvenez-vous, on en a parlé avec Lisa il n'y a pas longtemps. Sous son influence, l'événement est devenu un mélange de mode, de célébrité et de communication mondiale. Le principe est simple, chaque année, une exposition est lancée autour d'un thème précis et les invités doivent s'habiller en lien avec ce thème. Cela donne lieu à des tenues parfois artistiques, parfois extravagantes, voire volontairement choquantes. Par exemple, en 2018, le thème était Heavenly Bodies, inspiré de l'imagerie catholique. En 2023 encore, le gala rendait hommage au créateur Karl Lagerfeld. En 2024, le thème était Sleeping Beauties, Reawakening Fashion, centré sur des pièces historiques de mode. Le Met Gala est aujourd'hui beaucoup plus qu'une simple soirée mondaine. C'est un événement culturel mondial suivi sur les réseaux sociaux, commenté par les médias et utilisé par les célébrités pour construire leur image. Le thème est l'un des éléments centraux du gala, il permet de transformer le tapis rouge en véritable spectacle visuel. C'est un des éléments centraux du Met Gala, il permet... J'ai écrit deux fois la même phrase, pardon. Certaines célébrités jouent le jeu de manière très artistique. Les créateurs utilisent alors les vêtements comme des œuvres d'art pour raconter une histoire, transmettre un message ou rendre hommage à une époque. Mais le thème a aussi un rôle stratégique. D'abord, il crée de la viralité sur les réseaux sociaux. Les tenues les plus originales deviennent immédiatement des sujets de discussion sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram ou Twitter. Ensuite, le thème permet aux marques de luxe de se mettre en avant. Chaque robe portée au Met Gala représente des semaines, voire des mois de travail et des milliers, parfois millions de dollars investis par les maisons de couture. Enfin, ce thème contribue à transformer la mode en produit culturel. Les organisateurs cherchent à présenter la mode comme une forme d'art digne d'un musée. Cependant, certains critiques estiment que cette dimension artistique est parfois remplacée par une logique de buzz et de marketing. Selon eux, certaines célébrités cherchent surtout à attirer l'attention plutôt qu'à respecter le thème. Le Met Gala est souvent critiqué par son caractère très fermé. L'entrée est extrêmement chère, un billet individuel peut coûter plusieurs dizaines de milliers de dollars et une table entière peut dépasser les 300 000 dollars. Même si de nombreuses célébrités sont invitées gratuitement par des marques, cela montre le niveau social des participants. Le gala symbolise donc une forme d'élite mondiale composée de stars, de milliardaires, de dirigeants de grandes entreprises et de figures influentes de l'industrie culturelle. Cette image provoque régulièrement des critiques, surtout dans un contexte où les inégalités économiques augmentent. Beaucoup trouvent choquant de voir des célébrités porter des vêtements extrêmement coûteux alors qu'une partie de la population mondiale connaît des difficultés économiques. Cette critique est devenue particulièrement forte en 2021 lorsqu'Alexandria Ocasio-Cortez, une députée américaine connue pour ses positions contre les inégalités, est venue au Met Gala avec une robe portant le slogan « Tax the rich », c'est-à-dire « taxer les riches ». Pour certains, c'est une manière intelligente d'utiliser l'événement pour faire passer un message politique. Pour d'autres, c'était hypocrite de dénoncer les riches tout en participant à une soirée réservée à une élite. Cet épisode montre bien les contradictions du Met Gala. L'événement veut parfois afficher des messages engagés, mais il reste profondément lié au luxe et au pouvoir économique. Les polémiques concernent également le financement de l'événement. Le Met Gala est officiellement un événement caritatif. L'argent sert donc à financer le Costume Institute, qui est le seul département du Metropolitan Museum of Art devant financer lui-même ses activités. Chaque année, le gala rapporte alors plusieurs millions de dollars. Les défenseurs de l'événement affirment donc qu'il permet de soutenir la culture, la conservation des vêtements historiques et les expositions ouvertes au public. Mais ce financement soulève plusieurs critiques. D'abord, certains reprochent au musée de dépendre autant des grandes fortunes que des marques de luxe. Cela pose une question importante. La culture peut-elle rester indépendante lorsqu'elle est financée par des milliardaires et des entreprises privées ? Ensuite, certaines marques ou personnalités associées au Met Gala ont été accusées de pratiques problématiques. Par exemple, plusieurs maisons de luxe ont été critiquées pour leurs conditions de production, leur impact environnemental ou leur utilisation de travailleurs sous-payés. Il existe donc un paradoxe, un événement présenté comme culturel et artistique est financé en partie par une industrie souvent accusée d'encourager la surconsommation et les inégalités. Le Met Gala est aussi accusé d'utiliser la charité comme justification morale. Certains critiques considèrent que le Met Gala permet surtout aux grandes célébrités et aux marques d'améliorer leur image publique tout en bénéficiant d'une énorme visibilité médiatique. Autrement dit, même si l'événement récolte réellement de l'argent pour le musée, il fonctionne aussi comme une opération de communication géante. Une autre polémique importante concerne l'impact écologique et social de la mode de luxe. Le Met Gala encourage des créations spectaculaires, souvent conçues pour être portées une seule fois. Cela peut sembler contradictoire avec les discours actuels sur le développement durable. L'industrie de la mode est déjà l'une des plus polluantes au monde, notamment à cause de la production textile, des transports et de la consommation rapide des vêtements. Même si certaines célébrités mettent en avant des tenues recyclées ou vintage, beaucoup dénoncent une forme de greenwashing, c'est-à-dire une communication écologique qui ne change pas réellement des pratiques. Le Met Gala est également accusé de promouvoir des standards de beauté très exclusifs. Pendant longtemps, l'événement a surtout mis en avant des corps correspondant aux critères traditionnels de la mode de luxe. Cette année, c'était la première fois que le Met Gala était 100% inclusif en termes de mobilité d'ailleurs. Même si davantage de diversité est visible aujourd'hui, certains estiment que le gala reste éloigné des réalités sociales de la majorité des gens. Malgré toutes ces polémiques, le Met Gala continue pourtant de fasciner des millions de personnes. Cela s'explique par plusieurs raisons. D'abord, l'événement mélange plusieurs univers sociaux très populaires, la mode, le cinéma, la musique, les réseaux sociaux et le luxe. Ensuite, le Met Gala fonctionne comme un spectacle. Les internautes attendent les tenues les plus impressionnantes, les références culturelles cachées ou les moments inattendus. Le gala est aussi devenu une machine médiatique extrêmement efficace. Chaque apparition est immédiatement photographiée, commentée et transformée en contenu viral. Enfin, il reflète notre époque. Il montre à quel point les célébrités occupent une place centrale dans la société moderne et comment les réseaux sociaux transforment chaque événement en phénomène mondial. Mais si il révèle aussi des contradictions de notre société, fascination pour le luxe, critique des inégalités, volonté d'engagement politique et obsession de l'image. Finalement, Ce Met Gala, donc, est bien plus qu'une simple soirée de mode. C'est un événement culturel mondial qui mélange art, célébrité, communication et argent. Le thème annuel permet de transformer la mode en spectacle artistique, mais aussi en outil de marketing très puissant. Cependant, derrière les robes et les tapis rouges, le gala soulève de nombreuses questions. Son coût extrêmement élevé, sa proximité avec les grandes fortunes, les critiques environnementales et les contradictions autour de la charité montrent que le Met Gala est aussi le symbole des excès autour du monde de luxe. Au final, le succès du Met Gala vient peut-être justement de cette contradiction. Il attire autant parce qu'il fait rêver que parce qu'il provoque le débat. Le Met Gala n'est donc pas seulement un événement de mode, c'est un miroir de notre société contemporaine avec ses fascinations, ses inégalités et ses contradictions. Je vous propose de poursuivre avec une pause musicale. On va écouter Paralyzed des Cardigans.
Thank you.
introduction. Aujourd'hui, je suis avec Félix Souris, batteur du groupe Angevin Fragile. Bonsoir Félix.
Salut.
Déjà, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Fragile, est-ce que tu peux un peu vous présenter ?
Fragile, donc nous, c'est un groupe qui existe depuis bientôt 5 ans maintenant. Puis on a fait quasiment une petite centaine de concerts en France et en Europe et même au Canada récemment. Voilà, on est très content de venir jouer au Mans avec Knives, qu'on connaît bien, parce qu'on a déjà joué avec eux et puis on va rejouer avec eux encore une fois en Allemagne. Et puis voilà, on est 5 sur scène, on aime bien jouer fort et crier un petit peu de temps en temps.
Et comment tu définirais votre style de musique du coup ?
Alors nous, on se catégorise plutôt comme du hardcore, mais du hardcore assez gentil, un peu plus mainstream en fait. Du hardcore passe-partout si tu veux. On a été grandement influencé par des groupes comme Turnstile ou okay. Isis qui démocratisent vachement le terme hardcore et du coup le poppies un petit peu de manière générale. Voilà, et donc nous, ce qu'on aime en fait, c'est un peu crier fort et puis donner un peu d'énergie sur des morceaux qui musicalement sont un petit peu plus catégorisés comme étant pop, rock, quoi.
C'est quoi vos inspirations à tous, enfin même si vous avez forcément des univers différents puisque vous êtes 5, t'as parlé de Turnstile par exemple, c'est des groupes qui vous inspirent beaucoup?
Ouais, bien sûr, évidemment on est très influencé par la scène rock, hardcore, surtout de ce qui vient d'Angleterre et d'Amérique, on va dire, essentiellement. Mais après, notre force aussi, c'est que on s'inspire d'énormément de choses différentes, d'énormément de styles musicaux, tu vois, de l'électro, de la folk, du punk, des choses comme ça. Et puis aussi, surtout, tu vois, de l'univers visuel autour, par exemple, des séries, des films, de littérature aussi. Voilà, on s'arrête pas qu'à la musique, on essaie d'aller plus loin que ça et plus loin que se cantonner à un style et aller chercher plutôt dans des styles différents, quoi. Tu vois, par exemple, moi, en ce moment, j'écoute énormément de dub et de reggae. C'est mon truc. Voilà.
Et vous avez une formation qui est assez classique des groupes anglais, en fait. Je pense à Heavy Lungs ou Knives, même, qui sont 5 avec un frontman et les musiciens après. Enfin, je sais pas si c'est quelque chose qui a été réfléchi.
En fait, ça s'est présenté à nous au moment de la création du groupe. On avait déjà en fait suffisamment de musiciens en tout cas sur scène pour que Baptiste le chanteur n'ait pas à reprendre un instrument par-dessus, et c'est très bien parce que du coup ça le libère aussi un petit peu plus, et puis il est du coup plus libre de ses gestes, de tout ça sur scène. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est que effectivement, par exemple, un groupe comme Ivis aussi, qui est un groupe anglais je me demande s'ils sont pas de Liverpool ou de Londres, je sais plus. C'est, il y a un chanteur sur scène et puis après le groupe joue derrière. Nous, on aime avoir la posture du chanteur lead sur scène comme ça. C'est des choses qui nous plaisent, ouais, bien sûr.
Tu disais que le groupe avait 5 ans à peu près. Est-ce que tu peux parler un peu de la naissance du groupe? Je sais que vous étiez dans d'autres groupes avant, genre Feu, White Fox ou Lane par exemple. D'où vient l'envie de former un groupe tous les 5?
Alors oui, effectivement, on avait des groupes respectifs avant ça. À l'époque, tous ces groupes-là se sont plus ou moins arrêtés au moment du Covid, pour certains groupes un petit peu plus tard, mais en gros dans l'idée, voilà, ça s'est arrêté après le Covid. Et en fait, c'est ça, c'est vraiment le Covid qui nous a fait nous retrouver. On avait envie de sortir un peu de notre routine chez nous, et puis de se retrouver en fait vraiment à faire des conneries. Et en fait, petit à petit, à force de jouer dans une cave très fort, on s'est dit est-ce qu'on n'essaierait pas de faire des concerts? Puis très vite en fait, on s'est mis à faire des concerts quand tout est reparti. Et en fait, on a souvent senti un soutien vraiment important de la part de la scène angevine auprès de nous. Et ça nous a vraiment permis de pouvoir faire de plus en plus de concerts, de plus en plus rapidement. Et puis aujourd'hui, on est très très fiers et très reconnaissants de cette scène angevine qui nous a vraiment aidé à nous lancer, quoi.
Et le nom Fragile, ça vient d'où? Enfin, c'est assez drôle parce que la catégorie de musique que vous faites, c'est assez l'opposé. Tu disais que vous faisiez du hardcore, mais du coup, Fragile, c'est tout doux, tout mignon.
Ouais, mais c'est le but.
Ok, c'est recherché.
Non, en fait, sans que ce soit un but recherché, etc. En fait, ça nous correspondait bien. au moment, en tout cas, de la création du groupe, on était tous dans une fragilité émotionnelle qui était celle de la période du Covid, en fait, tu vois. Je pense qu'on s'est tous retrouvés à ce moment-là et ça nous a tous énormément aidés d'avoir ce groupe-là. Et c'était notre manière aussi d'exprimer un petit peu nos fragilités et notre sensibilité, quoi. Voilà, quand le nom est sorti, on s'est dit, bah oui, ça marche. Ça marche très bien comme ça et c'est super, partons là-dessus. Voilà, et puis c'était aussi une idée de casser un petit peu tous les stéréotypes liés au hardcore et au côté un peu qu'on le veuille ou non mascu du punk et du hardcore.
Carrément.
Voilà, ça nous plaît. On a eu quelquefois des petites réflexions, mais c'est un nom qu'on assume et qu'on aime, quoi, c'est sûr.
Vous avez sorti votre premier album en novembre 2025. Il s'appelle Big Big Smile. Cet album, il parle justement de cette fragilité émotionnelle, par exemple.
Ouais, complètement. Et puis, en fait, si tu veux, Big Big Smile, c'est un petit peu, enfin, sans rire, si tu veux. Mais c'est juste. Allez, on a nos failles, on a nos défauts, on a notre sensibilité, voilà. Mais en fait, à la fin, on y va, on sourit. On se relève et tu vois, par exemple, on a une chanson qui s'appelle Celebrate et donc elle va vraiment dans ce sens-là de chaque moment que tu passes où en fait tu te sens vraiment nul, où il t'arrive des merdes, etc. Bah en fait, allez, on y va, on se relève et puis on est tous dans le même bateau et allons-y. Et donc, Big Big Smile, ce nom d'album, ça va un petit peu dans ce sens-là aussi de allez, à la fin, ce qui compte, c'est juste. Bah, se relever, sourire un petit peu à ce qui se passe, et puis un côté un peu thérapeutique, quoi, tu vois.
Et je trouve, enfin, dans le titre, dans la prononciation, enfin, il y a un truc hyper souriant, ça donne envie de sourire. Enfin, je sais pas si c'est si vous l'avez.
Ouais, on cherchait aussi un nom d'album avec une phrase qui pouvait être, tu sais, en anglais ils disent statement, quoi, c'est un truc qui se retient, tu vois. Par exemple, enfin, je compare l'incomparable, évidemment, mais Nirvana, par exemple, sort Nevermind, quoi. Et donc, tu vois, Nevermind, tu dis, bah voilà, Nevermind, c'est l'album de Nirvana. Et donc, il y a un côté très bloc qui se... Enfin, un nom d'album, c'est hyper important. Et donc là, sur Big Big Smile, pour nous, ça marchait, quoi. Tu vois, Big Big Smile, il y a un truc un petit peu différent, quoi. Un peu... Enfin, voilà, un peu à notre image, quoi. On est... un petit peu différent et puis qui nous correspondait bien, quoi. Voilà.
T'as parlé juste avant du titre Celebrate. Vous avez collaboré avec AD qui était dans Thérapie Taxi avant.
Comment
la rencontre elle s'est faite, parce que c'est quand même la méga classe.
La rencontre elle s'est faite, comment elle s'est faite, en gros, on a sorti un premier EP en 2023. On était, je pense, chez nous, tranquille, à rien faire. Et à un moment donné, on reçoit une notif. AD a mentionné votre nom dans une story. Et en fait, on s'est dit, bah, ouais, je sais quoi, c'est quoi cette histoire. Et on regarde, et en fait, AD avait visiblement découvert le groupe via des playlists Spotify ou quoi. Et donc, elle avait partagé ça dans ses stories. Et puis, nous, on n'était pas trop au courant de ce qui se passait pour elle, tu vois, depuis la fin de Thérapie Taxi. On savait qu'elle avait une carrière un peu solo, mais toujours sans vraiment trop chercher. Et du coup, on a commencé à s'intéresser à tout ça. Et elle a partagé ça, on lui a répondu. Puis, quelques mois après, elle a repartagé ça. Et en fait, suite à ça, on a quand même discuté un petit peu par message. Elle nous a félicité pour l'EP, ce qu'elle trouvait super. Donc, ça nous a fait plaisir. Et en fait, au moment de composer Celebrate, l'idée venait de Baptiste de dire, bah, en fait, je pense que le refrain, il mériterait une voix féminine dessus pour nuancer vraiment toute la palette un peu vocale que ça peut donner, tu vois. Et on a réfléchi à plein d'artistes angevines. Ça aurait été un peu la facilité pour nous, tu vois, de trouver quelqu'un dont on est copain, parce qu'on a énormément d'amis qui sont très talentueuses. Mais il y a un moment donné, je crois que c'est Baptiste d'ailleurs qui a dit, bon, on n'a qu'à proposer à Adé, elle adore le morceau. Et puis on lui fait écouter, ça se trouve ça la brancherait. Alors nous, on pensait que ce serait complètement impossible. Et en fait, il s'avère qu'on s'est retrouvé à discuter avec quelqu'un qui était vraiment adorable avec nous et hyper gentil. Et en fait, elle a tout de suite accepté de chanter, mais genre d'une simplicité déconcertante, quoi.
Okay.
Et en fait, on s'est retrouvé à Paris. On a joué il y a un an à la Mécanique Ondulatoire à Paris. Et elle était là au concert. Du coup, on a pu discuter un petit peu. Elle nous a dit, mais moi, je suis carrément chaud, etc. Et puis, deux mois après, en février, on enregistrait l'album. Et elle était au local de répète avec nous pour faire ses prises de voix. On était genre 6 ou 7 dans la pièce. que des mecs, machin. On était tous hyper, hyper, et en fait, on était tous hyper impressionnés, quoi. Parce que elle arrive, il y a la classe, elle chante hyper bien, elle a l'habitude, donc en fait, elle sait ce qu'elle aime pas, elle sait ce qui marche pas. Et c'est hyper agréable de ça a été hyper agréable de travailler avec elle. Et ensuite, elle est dans le clip.
Ok, si oui, oui, oui.
Et donc, c'est pareil, en fait, elle a dit, bah, les gars, je dis que notre guitariste lui a proposé de venir pour apparaître dans le clip. Et donc, elle était mais, carrément à fond. Et en fait, c'est marrant parce que du coup, elle apparaît dans le clip, mais de manière un peu subtile et pas du tout obvious, comme on n'avait pas envie que ce soit, tu vois. Et du coup, c'est très chouette. Enfin, ça nous plaît. Et là, en décembre dernier, à Paris, à la Boule Noire, elle est venue chanter carrément le morceau avec nous. Et c'était trop cool, ouais. Et vraiment, vraiment une fille adorable. Et très étonnant que ce projet l'intéresse, donc on est reconnaissant là aussi, ouais.
J'avais envie de parler un petit peu de la pochette. Comme on est à la radio, je vais juste la décrire. On voit les jambes de quelqu'un dans l'encadrement d'une porte, et au premier plan, j'imagine que c'est de la pelouse, mais au début, je pensais que c'était de la moquette. Du coup, je suis pas sûre.
Ouais, c'est un peu de la moquette.
Ouais, ok. Mais du coup, est-ce que tu pourrais un peu l'expliquer? Je sais qu'on on voit la réalisation, je crois, dans le clip de A Reason Why.
T'as ouvert les yeux.
J'ai tout regardé. Est-ce que tu peux un peu expliquer qui l'a fait et pourquoi cette pochette, qu'est-ce qu'elle signifie?
À partir du début, au départ, on voulait... la pochette d'un album pour un groupe, c'est hyper compliqué à choisir. Mais il y a un truc qui nous a rejoint tous ensemble avec les gars, c'est le travail que faisait Héloïse Rabaté, là, qui est une amie à nous, notamment de JB, le guitariste, qui est une amie de très longue date. Et on adorait son travail de peinture. Donc en fait, elle s'appelle Lille Bâtard sur Instagram et sur les réseaux, etc. Et c'est quelqu'un d'adorable qui fait son truc dans son coin qui a une vraie touche à elle, très perso. Typiquement, ça ressemble un petit peu à ce que peut faire Edward Hopper, par exemple. Et il y a une vibe très Twin Peaks. Un jour, je lui ai dit, mot pour mot, prends ça pour un compliment, mais en fait, ces peintures, elles ont une odeur de clope froide. Pour moi, ça me fait vraiment sentir ça, tu vois, l'ambiance un peu motel américain, etc. Ouais, donc, on aimait beaucoup son travail, et en fait, on lui a laissé carte blanche. Elle nous a fait plusieurs essais de pochette, et puis après on a décidé un peu ce qu'on préférait dans la mise en forme un petit peu de l'image, et ensuite c'est elle qui a vraiment décidé des couleurs et de la réalisation, etc. Effectivement, et ça me fait plaisir que tu le remarques, effectivement elle apparaît dans le clip de Reason Why, où en fait c'était une volonté pour nous de la faire apparaître un peu comme un, en anglais ils disent un easter egg, une petite surprise, et surtout que le clip est paru avant la sortie de la pochette. Donc nous on trouvait ça plutôt chouette de faire ça comme ça, mais voilà, très content de la pochette, très content d'avoir travaillé avec Héloïse. Pour nous, ça rentre dans aussi une démarche de travailler avec des artistes locaux qu'on apprécie, qu'on connaît bien, plutôt que d'aller faire ça par des gens tu vois, qui vont demander beaucoup d'argent et qui ne connaissent pas l'identité du projet, etc. Nous, c'est notre manière à nous de soutenir les artistes locaux de notre ville et de notre région, même pour agrandir le truc. Donc on est très content de cette pochette. Ouais.
Elle avait les morceaux en tête en la peignant.
Oui, bien sûr. Okay. Bah, du coup, on lui a filé tous les morceaux en avance. Et puis c'est quelqu'un qui nous a vus plusieurs fois en concert. C'est quelqu'un qui nous connaît très personnellement, qui connaît notre univers. Nous, on a fait une petite sélection aussi des peintures qu'on appréciait chez elle. Et suite à ça, elle avait quand même tout un package pour pouvoir faire une illustration qui soit un petit peu en rapport avec les morceaux. Je vois ce côté très très comment on appelle, en il y a un terme portugais qui dit saudade. C'est un mélange de mélancolie, d'espoir et un petit peu de tristesse, mais en même temps d'espoir. Et je trouve que cette pochette, elle marche bien dans ce sens-là. Et en plus, tu vois, il y a des morceaux comme Reason Why où justement je sens, on sent un petit peu avec les gars aussi cette vibe un peu saudade, donc c'est très mélancolique, tu vois, d'un temps passé, quoi. Un truc, voilà. Mélancolique, quoi. Voilà.
Vous avez sorti cet album chez Le Cep Records, un label parisien, si je dis pas de bêtises. On y retrouve des groupes comme Rest Up, Angevin aussi, avec qui vous avez partagé une release party angevine. Comment vous en êtes venu à travailler avec Le Cep? C'était assez naturel de travailler avec eux?
Oui, carrément, carrément. En fait, notre premier EP est sorti chez 19 Something, qui est un label français, etc. aussi. Et puis, on avait la facilité que le patron du label, c'était mon oncle, Eric. Donc, c'était super qu'il soit là pour notre premier EP. Il nous a beaucoup, beaucoup aidé. Et puis, tu vois, on en a vendu un petit peu, donc on est content. Et après, au moment de l'album, c'est à rentrer quand même dans une volonté de passer un step, en fait. Un peu plus gros, et le Cep Records avait quand même une puissance médiatique, on va dire, un petit peu plus importante que 19 Something. Et nous, en fait, on a tout bonnement démarché des labels à droite à gauche. Voilà, il y en a qui étaient intéressés, d'autres non. Après une petite entrevue avec Anton, le patron du Cep, on s'est dit allons-y avec lui, et la collaboration marche bien. Voilà, on est content, on a vendu tout un premier pressage de vinyle, et là on en a recommandé un. Puis au final, ce qui compte, c'est l'objet, et nous, l'objet du vinyle, même du CD, c'est deux objets qui sont précieux à nos yeux, et qui là on est content de l'objet, on trouve que c'est un bel objet, et du coup c'est aussi grâce au label. Ouais.
Et cette release au Shabada, ça avait l'air super, enfin j'ai vu plein de photos de Restef, c'était bien.
Ouais, c'était génial, franchement c'était génial. En fait, nous, si tu veux, dès le départ du projet Fragile, on voulait tout de suite éviter de trop jouer à Angers.
Bah, bien sûr.
Parce que en fait, dès le départ, nous, ce qu'on voulait, c'était aller jouer ailleurs, quoi, se balader, partir en concert, découvrir, rencontrer de nouvelles personnes. Donc en fait, dès le début, on a fait le choix quand même de pas trop jouer à Angers aussi, pour que du coup tu crées un petit peu la rareté.
Carrément.
et que en fait, quand tu reviens, les gens sont là. Et donc avant de jouer au Shabada pour la release, on avait joué la dernière fois aux Lévitations. Lévitations, et puis on avait joué pour la fermeture du garage, du bar. Le garage. C'était quasi un an avant le concert, tu vois, au moins 9 mois avant. Et donc tu vois, entre temps, on sort l'album, etc. Enfin, on prévoit de sortir l'album. Et on a eu une chance déjà, c'était que le soir du concert correspondait à la journée de la sortie de l'album. Donc ça, c'est vraiment une chance, parce que pour un groupe, se caler pile poil entre la salle de ta ville, et la sortie de ton album, c'est super. Et on était franchement très surpris du nombre de personnes et du nombre de résas qu'il y a eu au final, puisque tu vois, nous on s'attendait à faire un petit club, donc le club c'est 300.
Bah ouais.
Et en fait, c'est parti très vite, et au final, on a eu, je crois, sans dire de bêtises, on a dû arriver à 570, donc quasi 600 personnes. Donc dans la grande salle, donc devant une salle avec des gens partout, enfin c'est hyper impressionnant, quoi. Et moi, à titre perso, émotionnellement, c'était très fort, parce que t'as ta famille devant toi, t'as tes amis, tout le monde était à fond, et puis les Rest Up, ils étaient tous à fond aussi. Il y a eu du monde direct pour Rest Up aussi, parce que ils ont sorti leur album, c'était leur release aussi à eux, tu vois. Et donc il y avait eu du monde dès le concert de Rest Up, donc ça c'était super aussi que les gens viennent aussi directement pour eux. Donc franchement, c'était une belle soirée. Il y a eu un article après dans le Courrier de l'Ouest, je crois, ou dans Ouest France, derrière, qui disait, c'est peut-être une soirée qui a marqué un peu le renouveau du rock aussi à Angers. Donc, c'est des compliments dont on est fier et qu'on prend avec grand plaisir.
On parle d'Angers, t'en as parlé un peu au début aussi. Est-ce que t'as l'impression que c'est un peu un vivier de cette scène rock? Enfin, je pense à White Fox avant, il y a quelques années, ils ont fait pas mal de choses. Notamment, ils ont collaboré avec les Stuff Foxes, que je passe souvent dans l'émission. Mais je pense aussi à Rest Up et à vous. Est-ce que t'as aussi ce senti?
Ouais, bien sûr. C'est marrant, on a fait une petite interview aussi avec un gars en visio, et il me posait cette question de vivier, de scène angevine, etc. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis les années 80-90, cette scène alternative, en fait, existe à Angers, avec des groupes comme les Tugs à l'époque, comme Zenzile aussi, qui joue toujours, mais tu vois, des trucs un petit peu moins connus comme les Dirty Ends, par exemple, ou même carrément plus connus comme Lojo, par exemple. Lojo, c'est des angevins, et ça tourne dans le monde entier. On a eu après toute une vague dans les années 2000 de groupes de rock et de hardcore comme Daria, comme Tiny Voices, ex Wong for Peace aussi, qui faisait un hardcore un petit peu plus énervé, mais qui tournait énormément dans le monde entier. Et en fait, là, aujourd'hui, maintenant, sans avoir une scène rock, en fait, on a vraiment une scène musicale qui est hyper, hyper impressionnante, que tu parles de rock, mais que tu parles aussi de rap. Alors, moi, je m'y connais un petit peu moins, mais tu parles de rap. Mais quand tu vois, par exemple, Tilassine, qui est angevin, Tilassine, il joue dans le monde entier. Donc là, c'est plus musique électronique. On parle de Sigibes aussi, qui est un artiste qui va péter, c'est sûr, là, avec, qui a eu la chance de faire The Voice, qui va faire l'Olympia, etc., machin, là. Donc en fait, on parle de Rest Up, évidemment. Mm. Nous, on arrive là-dedans aussi. Et en fait, c'est un passage de bâton continuel entre les générations passées qui vont te pousser à créer des choses parce que t'as le poids musical qui te drive, et les jeunes groupes comme nous qui avons envie d'aller voyager le plus possible pour que après aussi des nouveaux groupes puissent débarquer et dire ah putain c'est génial, Fragile, ils ont fait ce style là et en fait maintenant ils tournent partout et on est trop content de pouvoir vivre dans la même ville qu'eux. Et puis nous on peut aussi avoir cette posture là et il faut qu'on l'ait de transmission. C'est hyper important, et cette position là on l'avait pas avant l'album, par exemple. Tu vois, avant la sortie de l'album, on avait sorti notre petite EP et puis on était un petit groupe qui suivait, tu vois, à l'époque c'était Limboy, où il y a eu Bermude, des groupes qui étaient plus éphémères mais qui ont participé aussi à cette effervescence de rock. Tu vois, je pense aussi à la scène psyché avec le Lévitation aussi, c'est hyper présent à Angers. Tu vois, avec la sortie de cet album-là, nous, ça nous a un peu pris de court, où en fait, on a eu tout de suite énormément de propositions. On est parti au Canada, on est parti en Allemagne, Belgique, Espagne, Portugal et tout. Et donc, en fait, ton statut, il change un petit peu. Et moi, sans faire l'ancien, et le gars un peu de sa personne, mais j'ai envie aussi de pouvoir inspirer des groupes, tu vois, qui viennent nous voir en concert et qui disent « Ah putain, mais c'est cool, ils ont à peine 30 ans et puis ils tournent. » Et en fait, c'est possible de faire un groupe de rock à Angers ou de faire un groupe de musique de manière générale. Et puis en fait, si tu t'y prends bien, que t'es bien entouré et que nous, on a le rôle de pousser le groupe aussi pour qu'il se développe le mieux possible, bah en fait, c'est génial, tu vois. C'est comme ça qu'une scène se fait. Et on reste toujours hyper influencé par, tu vois, Daria, par Bird in Row aussi du côté de Laval, même du côté de Nantes, tu vois, il y a des groupes comme Basic Partner, etc., qui ont notre âge, mais qui sont hyper influents, qui nous influencent beaucoup. Voilà, c'est comme ça que se crée une scène, c'est comme ça que se maintient une scène aussi, et savoir d'où tu viens, et puis essayer de faire perdurer le truc par une entente constante et puis un soutien constant au groupe qui arrive petit à petit aussi, quoi. Et ça commence par aller voir des concerts.
Mais il y a une idée de rendre l'appareil, quoi.
Ouais, bien sûr. Et puis nous, si tu veux, on prend jamais rien pour acquis non plus. C'est pas parce qu'on a fait une cinquantaine de dates en un an que ça va durer toute la vie et qu'on laissera un héritage derrière, quoi. C'est pas une question d'héritage, quoi. C'est juste essayer de faire perdurer un peu ce truc là et puis si t'arrives des bonnes choses, c'est parce que t'es entouré de gens qui t'apportent des bonnes choses. Et puis sans cette scène, sans cette effervescence là locale, en fait, nous, on serait rien du tout, parce que c'est des gens qui nous ont tellement apporté, tellement aidé, quoi.
T'as parlé de Sigibes. Elle a fait les auditions des Inouïs du Printemps de Bourges en janvier dernier, qui avaient lieu au Shabada. Elle a donc été sélectionnée au National. Vous avez fait partie de la sélection 2025. Qu'est-ce que ça vous a apporté depuis?
Franchement, c'est un peu cliché ce que je vais dire, mais ça nous a tout apporté. Bah, franchement, il y a eu un avant-après les Inouïs. Pour être très honnête avec toi, moi, je m'imaginais pas du tout ça comme ça. Même les gars, ça les ferait marrer de m'entendre, parce que je pense que j'étais celui qui était le plus contre à aller dans ces trucs-là. Tu sais, le côté un petit peu institutionnel, quasi concours, en fait. Voilà, moi, ça me branchait pas du tout. C'est pas ma vision de la musique, etc. Bon, on a quand même joué le jeu, tous ensemble. On a eu la chance déjà d'être sélectionnés aux auditions. Ensuite, aux auditions, bah, tu vois, d'être sélectionnés pour aller à Bourges. Et après, arriver là-bas, c'est un peu étonnant, parce que t'arrives. Alors, les gars, on fait la classe verte pendant une semaine. Donc, ils ont eu plein de réunions, de meetings avec les autres groupes, etc. Tout autour de la structuration des groupes, des projets, etc. On arrive au Printemps de Bourges. On fait le concert, en fait on arrive, on joue à 14h et la salle elle est remplie et elle est remplie en partie aussi de programmateurs qui te découvrent. Et en plus, nous, pendant le week-end, nos premiers singles Reason Why et notre premier single il tournait, en fait. On avait un petit QR code et notre tourneur il avait fait passer à d'autres tourneurs, à d'autres programmateurs, etc. Donc en fait, ils avaient écouté le morceau, le premier single, ils avaient un lien aussi pour écouter l'album, et en plus ils venaient de nous voir en concert. Et donc, ça a été bon endroit au bon moment. Mmh. Et après ça, ouais, nous, il y a eu une succession de dates entre le bon concert à Bourges, mmh. la sortie de l'album quelques mois après. Quand on a sorti l'album, du coup, t'as énormément de programmateurs qui étaient déjà un peu au courant. Et puis aussi, notre tourneur à nous, il a fait un super boulot pour pouvoir faire passer le mot. Et du coup, dès la sortie de l'album, on est parti en concert et là, ça s'arrête pas, quoi. Donc, franchement, ça vaut le coup de faire ça quand même. Mm. Voilà, mais à coup de pas. Mais à coup de pas. Non, mais ça vaut le coup parce que même si c'est pas ton milieu, même si c'est pas ta définition même de la musique, mm. même si c'est un. Voilà, en fait, c'est une exposition et l'exposition, faut la prendre. Mm. Si t'as envie, en tout cas, de toucher le plus de personnes possible, parce que tu vois, il y a des groupes aussi qui restent dans leur coin et puis qui sont très contents avec ça. Et tu vois, on parlait des groupes comme Tiny Voices, par exemple, eux, médiatiquement, ils n'ont jamais été énormes médiatiquement, mais par contre, ils ont une crédibilité auprès de la scène underground qui est énorme. Mais par contre, tu vois, on ne les a jamais vus, quasiment jamais vus dans des SMAC ou dans des festivals énormes, etc. Là, nous, tu vois, on a pris le truc parce qu'on avait envie aussi, tu vois, bah, de jouer devant du monde. Et dans ce cas-là, si tu as envie de jouer devant du monde et ne pas faire de compromis, etc., bah en fait, il faut y aller, c'est important, quoi. Mais tu sais, c'est comme si JBS qui fait The Voice, quoi. Il faut prendre tous ces trucs-là, quoi. C'est bien pour toi et puis c'est bien pour les autres aussi, quoi. Voilà.
Tu as parlé du Québec, vous êtes allé là-bas. Ça fait pas flipper mm-hmm. de partir si loin et de dire merde, on est hyper loin de chez nous, ça se trouve, les gens, ils vont pas aimer.
Non, au contraire, c'est hyper excitant. Okay. C'est hyper excitant. Comme je te dis, nous, on a tout de suite voulu partir de la maison. Mm. On s'est marré hier parce qu'on parlait de quand on a joué à Brest en rentrant du Canada. En fait, on s'est dit, dans notre corps, on a ressenti que c'était plus long d'aller à Brest d'Angers que d'aller au Canada, tu vois. mais blague à part, non, franchement, c'est hyper excitant. Moi, collectivement, c'était un rêve, si tu veux. Il y a cette matérialisation de prendre l'avion avec ton groupe. C'est quelque chose qui, en fait, arrive à peu de groupes au final dans leur carrière. Et du coup, le fait de, c'est con, hein, mais de matérialiser ça en mode je prends l'avion avec mon groupe, je m'occupe de des déclats en douane, je m'occupe des visas, je m'occupe sur place de logement, camion, backline, etc. C'est une régie de tournée qui est complètement différente et qui est hyper excitante. Tu vois, c'est trop bien de se dire que tu prends l'avion, que tu vas sur le continent américain qui est quand même le continent du rock générale, que t'es quasiment sûr que tu vas jouer devant du monde. C'est évident parce que nous, notre tournée, elle était agencée pour qu'on puisse jouer devant un peu de monde quand même, donc tant mieux. Et en fait, au final, on a passé une semaine, 5 dates en une semaine, donc c'était assez rapide et intense. Mais franchement, on s'est éclaté, quoi. On s'est éclaté et puis c'est dans les meilleurs souvenirs du groupe. Non, être loin de chez soi, c'est pas un problème.
Et du coup, après la sortie de Big Big Smile en novembre dernier, une longue série de dates, qu'est-ce que vous projetez pour la suite?
On n'a pas vraiment prévu de s'arrêter.
Non, j'imagine.
Non, on va continuer les concerts. Voilà, cet été, on va avoir quelques festivals. Mmh. C'est vraiment chouette. Ça nous rend vraiment heureux de pouvoir faire des festivals d'été. C'est cool. Alors, c'est un peu étonnant parce que tu vois, on partage l'affiche avec des groupes et des artistes un peu étonnants. Tu vois, genre, on va jouer avec le même jour que Oxmo Puccino, par exemple, au Pont du Rock. On va jouer le même jour que Moby ou Paul Kalkbrenner à Château-Gontier au VNB. Mm. Donc, c'est assez étonnant et c'est assez marrant pour nous de faire ça toute la saison d'été, là. Et puis, après, à la rentrée, on a signé une collab avec Bullet Seed, qui est un tourneur ibérique. Mmh. Donc, on risque de partir très probablement en Espagne, Portugal. Oui, et puis voilà, ouais, on va pas s'arrêter. On compose des nouveaux morceaux petit à petit. Bah, il faut faire vivre le truc, quoi. Il faut entretenir et puis essayer de donner le meilleur de soi à chaque fois dans les nouvelles compositions, dans les nouveaux projets. Voilà, c'est important pour nous et puis nous, on aime faire ça, quoi. Donc, tant que t'aimes faire ça et que tu sens que t'es avec les bonnes personnes, faut pas s'arrêter.
Merci beaucoup à toi, Félix. Et puis, belle continuation.
Eh ben, merci beaucoup.
C'est déjà la fin de cette émission. Vous pourrez bien sûr réécouter cette émission en rediffusion demain de 9h à 10h sur les ondes de Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et sinon en podcast sur radioalpa.com ou sur votre plateforme préférée. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et je vous dis à lundi.